tout un rituel. On entre tout d'abord dans la petite salle des professeurs qui est à l'arrière de la grande salle 8, qui est la salle des leçons inaugurales. Alors on est là tous serrés, à se saluer, à se congratuler en attendant l'heure fatidique.
Les leçons inaugurales du Collège de France par Meryl Moneghetti.
Je me souviens que M. Lévi-Strauss m'a prise par le bras parce que je tremblais, je lui ai dit, je meurs de peur. Il me dit, on est tous passés par là, Françoise, il faut y aller.
Que veut dire l'enlèvement, sinon le transport de la princesse Europe de la Phénicie vers Gortyne en Crète pour fonder un nouveau continent dans le mythe grec, s'interroge l'écrivain Alberto Manguel. Qui est Cadmos, l'un des frères d'Europa, et le fondateur légendaire de la cité de Thèbes, qui serait à l'origine de la culture. Enfin, de quelle façon le contenu des mythes, liés au rapt, sinon au viol d'Europa, peuvent-ils constituer la pierre de touche qui prête au peuple de l'Europe une identité commune intuitive, demande Alberto Manguel, titulaire de la chaire annuelle « L'invention de l'Europe par les langues et les cultures ». Cette chaire qu'il a inaugurée au Collège de France le 30 septembre 2021 a été créée en partenariat avec le ministère de la Culture afin d'analyser les enjeux contemporains de la création intellectuelle et artistique en Europe. Dans sa leçon inaugurale, à partir du mythe de l'enlèvement d'Europa par le dieu grec Zeus et ses différentes relectures, Alberto Manguel propose d'analyser comment un récit devient un mythe et comment un mythe récupéré devient la métaphore d'une identité, alors même que le concept d'Europe est instable, ne cessant de bouger dans sa géographie, sa démographie, sa politique. Où en sommes-nous au XXIe siècle dans notre lecture du mythe d'Europa et de l'usage que nous en faisons en tant que métaphore, demande-t-il. Alors que la langue de l'Europe, c'est la traduction, selon la formule d'Umberto Eco, l'écrivain essayiste polyglotte né à Buenos Aires, qui réside aujourd'hui à Lisbonne, après avoir vécu sur plusieurs continents, s'interroge sur la façon dont la notion de traduction pourrait expliquer en partie le processus. Nous gagnons le Collège de France le 30 septembre 2021 pour la leçon inaugurale d'Alberto Manguel, intitulée « Europa, le mythe comme métaphore ».
Madame la ministre, monsieur l'administrateur du Collège de France, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, les mots que vous allez entendre ne sont pas les miens. Ils appartiennent à ma traductrice, Christine Leboeuf. Le dogmatisme n'est pas mon fort. En ce qui me concerne, le texte sur la page n'a jamais été immuable, catégorique. Je me méfie des étiquettes. Tout texte, quel que soit son titre, peut en devenir un autre à mes yeux. Tout texte a toujours eu, dans ma lecture, un autre protagoniste inévitable, moi-même. Miroir de l'un ou de plusieurs des personnages, juge de leurs actions, correcteur et arbitre du style, censeur qui décide si le livre sera sauvé ou condamné aux flammes, traducteur des mots sur la page en mon vocabulaire personnel, j'ai toujours été convaincu d'avoir le droit d'intervenir dans le texte. Je suis mû par mes goûts, par la portée de mon maigre savoir et l'étendue de mon ignorance, par mes préjugés conscients et inconscients et ma sensibilité au jugement d'autrui, par mon propre esprit d'invention. Je peux prétendre lire un texte à la lumière d'un son public contemporain ou le critiquer à l'ombre de la sagesse supposée de mon temps. Je peux soutenir que le texte partage les péchés de son créateur, ou je peux lire, ainsi que le voulait Valérie, comme l'œuvre d'un fantôme irréprochable, producteur et consommateur de littérature. Tout texte que je lis change immanquablement dans ma lecture. Ils deviennent une fable, une chronique documentaire, un rêve, un Bildungsroman, une allégorie, un conte fait. Je ne descends jamais deux fois dans le même texte. À la fin du premier siècle avant notre ère, Gaius Julius Higinus, un affranchi espagnol devenu bibliothécaire d'Auguste, réunit un ensemble de versions des mythes traditionnels grecs et romains, parmi lesquels l'histoire des origines de l'Europe. Selon lui, Jupiter ou Zeus s'est pris de Europa, la fille du roi phénicien Agénor, et métamorphosée en taureau, l'emporta de son royaume jusqu'en Crète. Agénor envoya les deux frères d'Europa à sa poursuite, leur interdisant de réapparaître chez lui sans l'avoir retrouvé. Ils ne revinrent jamais. Des deux frères, Cadmus devint le plus célèbre, car il était réputé avoir emporté dans sa quête des merveilleuses inventions phéniciennes, notamment l'alphabet, conférant ainsi au monde grec le don de l'écriture. Pour Ernst Curtius, traitant des mythes grecs à la fin du XIXe, le frère d'Europa devint l'un des fondateurs de tout ce qui était authentiquement grec, l'émissaire d'un mode de vie plus développé, originaire de la Méditerranée orientale. L'Asie pour les uns, l'Afrique pour les autres. Le mythe ne prend pas fin avec l'enlèvement. Après être arrivé en Crète, Europa donna à Zeus trois ou peut-être quatre fils, Sarpedon, Minos, Radamante et, selon certains mythographes, Écus. Le Socrate de Platon, lorsqu'il décrit les juges de l'au-delà, explique que l'Asiatique Radamante fut chargé de juger les morts venus d'Asie, tandis que l'Européenne Aécus jugeait ceux qui venaient d'Europe, admettant implicitement que faute et mérite ont un composant culturel considérable. Minos, un Asiatique, tenait le rôle de cour d'appel pour tous, ainsi que Dante le reconnaîtrait plus tard en lui confiant la responsabilité de décider du lieu de tourment spécifique mérité par chaque pécheur. Le nouveau royaume d'Europa, établi par elle et ses fils, acquit l'identité d'un pont entre deux civilisations. Europa peut avoir atterri en Crète, mais c'est le nord barbare que les Grecs considéraient comme son domaine, les terres non civilisées qui s'étendaient au loin, un continent distinct de la Phénicie civilisée d'Agénor et des opulentes cours de l'extrême-orient. Avec une logique d'historien, Hérodote contestait que le continent eût été nommé d'après elle. S'accordant avec les propos que 2000 ans plus tard allaient être annoncés par Thomas Romer, Hérodote refusa de suivre les sirènes de la postmodernité qui chantent les merveilles des lectures subjectives et affirma qu'il est certain qu'Europa était asiatique et qu'elle n'est jamais venue dans ce pays que les Grecs appellent maintenant Europe, mais qu'elle passa seulement de Phénicie en Crète et de Crète en Lycie. Si jusqu'à très récemment, les historiens ont pensé que dans la langue grecque primitive, le mot « Europe » signifiait « soleil couchant », il est admis désormais que ce que les Grecs appelaient l'Europe était simplement le continent, un espace qui n'était pas l'une de leurs îles innombrables. Au fil du temps, à force d'incursions et d'occupations, cette définition négative prit une connotation positive. Le continent barbare devint, par la voix des créateurs des mythes romains, un synonyme de civilisation, car c'était un domaine civilisé grâce à l'intervention romaine. En revanche, la Grèce, dont les armées avaient osé incendier les remparts d'Ilion, était dépeinte comme un autre grossier et est né le prince troyen vaincu et fondateur mythique de Rome, eut sa revanche. Lorsqu'il rencontre son père Anchis au royaume des morts, Aîné entend le fantôme prophétiser la future gloire impériale des Roms. D'autres forgeront avec plus de grâce des bronzes qui sauront respirer. Ils tireront du marbre des visages vivants. Ils plaideront mieux. Ils figureront avec leurs baguettes les mouvements du ciel, diront le lever des astres. Mais à toi de diriger les peuples sous ta loi, Romain. Qu'ils t'en souviennent, ce seront là tes arts, à toi, et de donner ces règles à la paix, respecter les soumis, désarmer les superbes. Le droit de conquérir devint un trait de caractère essentiel de l'identité romaine, non seulement pour Auguste et ses successeurs, mais encore beaucoup plus tard, au XXe siècle. Ayons un poignard entre nos dents, une bombe dans nos mains et un mépris infini dans nos cœurs, clamait Benito Mussolini en 1935, modélant les symboles de son gouvernement sur les emblèmes de la Rome impériale. L'Empire britannique choisit le même modèle afin de chanter sa politique comme « Land of Hope and Glory ». Pour Rudyard Kipling, Rome et Grande-Bretagne étaient synonymes. Cœur vaillant, sein d'une triple armure, bas fort, car ton sang circule d'âge en âge dans tout l'Empire, et nous, tes fils, qui, loin de cette colline, aiment et servent sans compter, et ont besoin de toi pour protéger chez nous les feux impériaux. Deux intentions au moins peuvent nous inciter à lire un mythe. L'une viserait à extraire de l'histoire toutes les significations qui sembleraient justifiées par une preuve factuelle, intention que nous pourrions qualifier d'intention historique, qui peut découvrir dans le mythe du taureau et d'Europa des liens avec la civilisation phénicienne comme avec la société minoenne et ses cérémonies tauromachiques. L'autre nous pousserait à introduire dans le mythe des interprétations qui ne sont pas justifiées historiquement, mais lui prêtent une nouvelle signification culturelle, tendance que nous pourrions qualifier de fictive, au sens du concept scolastique de fictivus, qui permet au poète ou au lecteur de parvenir au-delà d'une exploration rationnelle de la réalité. Un mythe comme celui d'Europa servirait de métaphore pour l'un ou l'autre de ses objectifs. Les imaginations poétiques peuvent être récupérées dans toutes sortes d'intentions. Lu d'un point de vue politique, un mythe peut devenir fondateur, affirmatif, intercesseur, ou servir à illustrer des discours stratégiques. Puisque les stratégies politiques nécessite l'établissement des hiérarchies d'identité, de telles hiérarchies ne peuvent être mieux présentées que par des histoires dont la morale extrapolée devienne une devise politique. Karl Krauss pensait que le nationalisme était une déformation détestable de certains adjectifs. Il vituperait ces Prussiens analphabètes qui pensent que l'adjectif « Deutsch » a une forme comparative et une superlative. Un exemple de telles identités, on trouve « God is English » formulé par l'évêque John Elmer en 1558, « Deutschland über alles » emprunté par les Allemands à un hymne composé par Haydn en 1797 en honneur de l'empereur Franz II sur des paroles d'un certain Lorenz Haschka, poète autrichien et inspiré d'un chant populaire croate. La France ne peut être la France sans la grandeur, proclamé par Charles de Gaulle en 1954. Il n'existe pas de croix sans trois doigts, le salut à trois doigts qui symbolisait à l'origine la Sainte Trinité et devint dans les années 60 un symbole de l'orthodoxie ethnique serbe. Des mouvements nationalistes choisissent un mythe parmi tant d'autres en fonction de ce qui convient à leur image idéalisée. Des personnages quasi mythiques tels que le prince Marco dans les Balkans, Jeanne d'Arc en France, le roi Sébastien au Portugal, Arthur et ses chevaliers en Angleterre, Don Quichotte en Espagne, se trouvent appelés à jouer ce rôle. Montesquieu définit l'Europe comme un seul État composé de plusieurs provinces. Unies sous un même nom, ces nationalités provinciales choisirent collectivement un mythe pouvant les définir. Le mythe choisi autorise l'hégémonie désirée par les nations, puisque la sélection de mythes de préférence aux autres dénote une certaine supériorité imaginaire, une prérogative impérialiste implicite conférée par la mythologie choisie, une préservation des droits anciens pour justifier ceux qui sont établis au présent. Athéna offrant l'olivier à la ville d'Athènes, le fils de Vénus concevant les plans de la future ville de Rome, Ulysse fondant la ville de Lisbonne, ces mythes prêtaient implicitement aux Athéniens, aux Romains et aux Portugais des prérogatives divines. Le mythe d'Europa, enlevé par le taureau, contribuait à définir l'état collectif imaginé par Montesquieu comme une société existant sous l'égide d'une figure fondatrice, Europa, choisie inter mulieribus par les dieux suprêmes de l'Olympe. Un mythe est un récit qui acquiert, le long du temps, une signification métaphorique supérieure à l'imagination individuelle de quelque lecteur que ce soit. Il peut être issu d'événements historiques, des rêves inconscients ou des rêveries inconscientes, et il est reflété dans l'imaginaire d'une société au présent, au passé et au futur, jusqu'au moment où, mystérieusement, il s'atténue et disparaît. Certains mythes ont une vie plus longue que leurs frères. D'autres subissent des si profondes mutations qu'ils deviennent quasi méconnaissables. On peut donc définir le mythe comme le produit de l'imagination d'un poète transformé par l'imagination de la société dont il est l'hôte en un emblème ou une métaphore de cette société. Les mythes sont transformés, altérés, repris et muets en métaphores en fonction des besoins d'une époque ou d'un lieu. Et pourtant, dans son essence, un mythe, si changé qu'il soit, reste intrinsèquement le même parce que sa formation ne relève pas d'une fantaisie arbitraire, mais constitue une manifestation concrète de certaines intuitions individuelles et sociales primordiales. Les mythes nous intriguent, dit le Jungien Craig Stevenson, parce que leur récit plonge plus profond que le simple récit d'une belle histoire. On les sent chargés d'une signification qui est à la fois élémentaire et partagée. Que les mythes vivent et meurent, qu'ils viennent et repartent, cela n'a sans doute rien d'étonnant, puisqu'ils peuvent perdre leur solidité et leur signifiance dans une version ou un contexte particulier. Mais que se passe-t-il exactement lorsqu'un mythe apparaît, disparaît et puis réapparaît à de multiples reprises, comme s'il s'opposait aux époques, comme s'il protestait de sa valeur? Un mythe ne possède-t-il pas seulement un sens, mais aussi de la vigueur et de la détermination? Fin de citation. L'intention fictive peut travestir le mythe, mais ne peut jamais en éliminer l'ossature ancestrale, voire archétypique. L'histoire de Europa, probablement imaginée d'abord au cours de l'âge de bronze, reçut d'Ovid à Rome une forme devenue populaire. Quelle qu'ait pu être l'histoire originale de la jeune fille et du taureau, cette histoire devint, dans la version d'Ovide, le récit d'une transformation de la vierge Europa en partenaire sexuel de Zeus, de la princesse en reine et mère des rois, de la native d'un pays en migrante forcée, justifiant par là qu'Ovid l'ait inclus dans ses Métamorphoses, livre qui affirmait implicitement le transfert de l'imaginaire grec dans celui de Rome. Le nom de ce mythe varie selon la langue dans laquelle il est raconté. Rape en anglais ou rapto en espagnol peuvent signifier une violence physique, pas simplement un enlèvement. L'allemand Entführung et le français enlèvement n'impliquent pas nécessairement un viol. Dans le cas de la présence de Zeus, si. Les dieux de l'Olympe étaient réputés comme responsables d'au moins une demi-douzaine de viols qui, pour la plupart, eurent pour résultat l'acceptation ultérieure par la femme violée du fruit de ces viols. Ses enfants devinrent des héros, parfois dotés d'immortalité. Dans l'imaginaire grec, le viol commis par un dieu était jugé par ses conséquences. Dans les littératures occidentales, le modèle de l'histoire d'Europa et du taureau est l'épisode de l'enlèvement à Sidon par des marins phéniciens de la fille d'Arybas dans le 15e livre de l'Odyssée. Après Homère, les Grecs imaginèrent différentes versions de l'enlèvement d'une vierge, transposant l'histoire homérique en d'autres histoires dont les acteurs étaient soit des simples mortels, soit des mortels et des dieux. Au premier siècle de notre ère, le mythe d'Europa devint pour Horace, tel qu'il le raconte dans ses odes, une invention de l'imagination active, l'expression d'une vérité ou d'un mensonge selon l'interprétation du poète. « D'où suis-je venu ? Où m'en vais-je ? » demande la princesse de Horace. « Suis-je éveillé en pleurs pour une vilenie ou sans reproche, moqué par un fantôme évanescent irréel qui de la porte d'ivoire n'amène qu'un rêve ?» Comme la porte d'ivoire, comme vous le savez, est le lieu de passage des rêves menteurs, la déesse Vénus, apparaissant avec son fils Eros qui tient son arc débandé, la met sévèrement en garde. « Arrête de pleurer et apprends à te montrer digne de ta bonne fortune. Une partie de la terre portera ton nom. » L'imagination poétique, Zeus blessé par Eros, a évoqué un acte érotique violent qui, bien qu'infligé, aura par conséquence le nom d'un continent. Les flèches d'Eros peuvent allumer une passion amoureuse et l'attacher à un objet choisi au hasard, comme lorsque ces flèches font succomber sa mère au charme d'Adonis. Si l'être aimé se montre irrespectueux envers la victime de l'amour, il pourrait être châtié par le frère d'Eros, Anteros, comme dans la légende rapportée par Cicéron dans De Natura Deorum. Les flèches d'Eros peuvent aussi amener la transposition de l'acte érotique en idée, dans le cas d'Europa, en l'idée d'une identité continentale. Le concept de Nachleben, cher à Abby Warburg, s'applique à la survie, la vie après la mort et la transformation de certaines images et histoires. Le mythe d'Europa a connu une Nachleben longue et fertile. Le Moyen-Âge et la Renaissance chrétienne, tout en restant attachés au mythe, tentèrent en même temps d'en atténuer les racines païennes et en estomper l'essence, afin de prêter à l'histoire une signification chrétienne. L'un des pères de l'Église, Lactance, proposa de démystifier la légende grecque en déclarant que le taureau était simplement le nom du vaisseau à bord duquel Europa avait navigué. 6 siècles auparavant déjà, l'astronome et poète Ératosthène avait tenté de présenter l'histoire de Zeus, de la belle princesse africaine ou asiatique, comme une simple illustration de la constellation du taureau. Plusieurs théologiens chrétiens, ne pouvant rejeter complètement la mythologie païenne, cherchèrent à allégoriser le mythe d'Europa et l'expliquèrent comme une représentation de la chasteté chrétienne tentée par Cupidon de succomber à l'amour terrestre. D'autres ont lu dans cette histoire une représentation du pouvoir de la virginité de Marie et associé la rencontre du taureau et de la princesse à celle de la licorne et la jeune fille. À la Renaissance, on avait l'habitude de décorer les cassoni, ces grands coffres à linge offerts aux couples de jeunes mariés, des scènes inspirées d'Ovide, dont l'une des plus fréquentes était celle d'Europa parant le taureau de guirlande, symbole de mariage heureux. La partie viol de l'histoire restait bien entendu laissé de côté. Dante fut un des rares à dénoncer le viol comme un grand mal. Dans Paradiso, il donne à l'empereur Justinien ces paroles. « Essai qu'elle fait dal mal delle Sabine al dolor di Lucrezia in sette regi, Et tu sais ce qu'il en fut de l'infâme rapt de Sabine aux douleurs de Lucrèce sous sept rois. Chez certains auteurs chrétiens, le viol devint une métaphore de l'incarnation. À la veille de la Révolution française, André Chénier voyait dans le ravissement amoureux de Zeus l'amour de l'Esprit Saint pour la Vierge Marie. Il se relève Dieu, détache la ceinture à la belle étrangère et la Vierge en ses bras devienne épouse et mère. Au XVIe siècle, Guillaume Postel, dans son Cosmographicae Disciplinae Compendium, tenta de remplacer le mythe païen par l'histoire biblique de Noé et de ses enfants envoyés repeupler le monde après le déluge. Donc Sem en Afrique, Cham en Asie, Japheth en Europe. Postel soutenait que le continent d'Europe aurait dû être renommé Japhétie, mais sa suggestion ne rencontra guère de succès. En 1914, l'historien René Dussault déclara, non sans impatience, que le mythe d'Europe n'était qu'une question de géographie mise en mythe et ne devait pas être pris plus au sérieux que les attributions de Sem, Cham et Japheth. Et pourtant, les caractères géographiques du mythe étaient là depuis le début. Dans l'une de ses premières versions poétiques, celle de Muskos au IIe siècle avant notre ère, le poète prête à la princesse un rêve prophétique dans lequel deux continents en forme de femme, l'Asie et les terres d'en face, se la disputent. La première déclare avoir donné le jour à la princesse et soutient que par conséquent, Europa lui appartient. Mais c'est à la seconde qui, de ses mains puissantes, elle la peu réticente jeune fille, que Zeus accordera la princesse. L'Asie a enfanté Europa, mais c'est la terre d'en face, l'Europe encore à nommer, qui a éveillé son amour. En 1827, Giovanni Battista Marino résuma le Locus Classicus à la fin de son long poème sur le rap mythique. Plus tard, en souvenir éternel, Europa choisit de donner son nom à la plus belle partie de la terre. Au long de sa Nachleben, le mythe perdurera et donna naissance à des autres mythes concomitants. Je vais faire une liste parce qu'elle est très longue, je ne peux pas m'arrêter sur chaque point. Des mythes de souveraineté dans lesquels Europa est décrite comme une princesse élue régnant sur le monde entier. Des mythes de féminité archétypique insistant sur la beauté et l'aspect séducteur d'Europa, la bien-aimée des Zeus, thème qui a inspiré maintes poètes, des anciennes grecques jusqu'à Derek Walcott. Des mythes de protocolonialisme bâtis sur des faits historiques où Europa domine ses frères africains et colonise des terres lointaines, illustrant les paroles de Franz Fanon pour qui le bien-être et le progrès de l'Europe ont été bâtis sur la sueur et les cadavres des nègres, des arabes, des indiens et des jaunes. Des mythes d'influence afro-asiatique qui apportent un fondement à l'insistance de Victor Bérard sur la présence phénicienne dans la civilisation grecque archaïque. Des mythes d'immigration et de réadaptation dans lesquels Europa apparaît comme une nomade étrangère. Des mythes qui appellent une lecture féministe où Europa est décrite comme une femme pouvant être violée, situation sociale et non biologique. Selon le schéma binaire occidental, Zeus le ravisseur peut incarner l'ergon, la force brute d'un dieu lascif et son avatar bovin, tandis que la princesse Europa, dans la tradition de La Belle et la Bête, de Caliban et Miranda, de King Kong et Fay Wray, peut se charger du rôle de l'ulogos, le discours raisonné qui répond à la force avec douceur. Le mythe mêle les deux, selon Derek Walcott, comme dans l'obscurité salée, la bête et la femme jouissent ensemble. Cette fusion a suscité des alarmes dans notre 21e siècle. Il y a à peine 2 mois, en août de cette année, quand le musée Isabella Stewart Gardner à New York a organisé une exposition du Titien et ses portraits des femmes, un commentateur a déclaré dans le New York Times que l'enlèvement d'Europa du Titien, je cite, « ne peut que nous mettre en alerte rouge aujourd'hui, quand des accusations et des récits vérifiés d'assaut sexuel sur des femmes apparaissent presque quotidiennement dans les journaux. À vrai dire, le cycle entier, avec ses images répétées, de pouvoir fondé sur le genre de chair féminine exposée, invite à une évaluation MeToo et porte à douter que n'importe quel art, si grand soit-il, puisse être considéré comme exempté d'une exigence morale. » Fin de citation. Ceci n'est pas nouveau. Le moralisme a servi de fondament ou d'excuse à la censure et à des lectures tendancieuses longtemps avant que Auguste ne bannisse Ovid à Thomis pour avoir écrit, suppose-t-on, des vers qui l'offensaient. Et jusqu'à notre temps, bien après la destruction des Bouddhas géants de Bamiyan par le Taliban en mars 2001. Pendant le Troisième Reich, des héros de la pureté de la race aryenne, tels que le classiciste Helmut Breve, voyaient dans le mythe de Europa une création uniquement indo-européenne, sans la moindre contamination phénicienne, c'est-à-dire africaine. Dans une conférence prononcée plusieurs fois au cours des années nazies, Breve félicitait les Romains d'avoir détruit la colonie phénicienne de Carthage et débarrassé leur Lebensraum de ces mythes. Je cite, « Parce que Rome remporta la victoire et éradiqua les Semitentum du domaine de la Méditerranée occidentale, écrivit-il, elle sauva l'Occident et créa la possibilité d'une culture européenne. » Pour Breve, l'Europe n'était dès lors pas africaine, mais avait en revanche des racines dans l'Orient aryen. Quelques décennies plus tôt, Paul Valéry réfléchissait sur la connexion asiatique ainsi suggérée. L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique, demandait-il ? Ou bien l'Europe restera-t-elle ce qu'elle paraît, c'est-à-dire la partie précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau de ce vaste corps? En 1969, Heinrich Böll publia sa version du mythe d'Europa, intitulée « Il vint comme livreur de bière », dans laquelle Zeus et Taurus, un livreur de bière malpropre que le villageois appelle taureau ou dieu, et Europa, une adolescente orpheline qui séduit les hommes dans la forêt. Quand on lui demande ce qu'il cherche, le livreur répond simplement « Europa ». À notre époque, remarque Böll, les frères étrangers de la princesse sont encore à sa recherche, exilés en quête de l'Europe mythique où leur est promise une vie nouvelle et meilleure. Les mythes naissent dans le silence. Ovid, lorsqu'il déclare que les histoires qu'il va chanter sont nées des dieux, explique qu'au commencement, il n'y avait rien, rien que la masse silencieuse de la nature, ni façonnée, ni encadrée. C'est dans cette masse que le dieu, quelque dieu que ce fût, insuffla son haleine et créa les vents. Le premier mythe fut donc la métamorphose du monde, son passage du silence au langage. Ce n'est pas au commencement, mais après le commencement que fut le Verbe. Rappelons-nous que c'est en Phénicie, le royaume natal d'Europa, que naquit l'alphabet. Plus explicite que celui d'Ovid, le mythe de la création selon la Genèse déclare clairement que les mots sont venus après les choses qu'il dessine. Après avoir formé Adam de la poussière du sol et l'avoir placé dans un jardin à l'est de l'Éden, Dieu entreprit de créer tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les amena à Adam pour voir comment il les nommerait. Et quel que fût le nom donné par Adam à chaque créature vivante, tel fut son nom. Pendant des siècles, les chercheurs se sont interrogés au sujet de ces curieux échanges. L'Éden était-il un lieu où rien n'avait de nom, et Adam était-il censé d'inventer des noms pour les objets et les créatures qu'il voyait, ou les bêtes et les oiseaux créés par Dieu avaient-ils en vérité des noms que Adam était d'une manière ou d'une autre censé connaître et qu'il devait prononcer à haute voix comme un enfant qui voit un chien ou la lune pour la première fois? Le mythe permet au moins deux lectures. La seconde relie le langage à l'éducation et à la mémoire. Les implications de la première sont encore plus considérables. Si Adam possédait la capacité de donner des noms à des choses que jusqu'alors n'en avait pas, cette capacité, celle d'une imagination linguistique, lui permettrait de créer un récit à partir des impressions qu'il essayait sous forme de fragments muets. Adam était seul en Éden, mais dès qu'arrivait Ève, tous deux auraient à partager un vocabulaire conférant une identité à chaque créature et à chaque objet. Le langage, toujours selon la Genèse, doit donc être déterminant. Nous sommes ce que dit notre nom, et les histoires que nous fabriquons avec nos noms créent un récit pour nos identités. Ce don identificatoire, Dante le considérait comme l'un des deux grands objectifs de la liberté et du pouvoir, la noble vertu que Béatrice entend par libre arbitre. Pour d'autres poètes, il dénotait simplement l'imagination humaine. Wordsworth, au XIXe siècle, a donné de ce don cette définition. L'imagination, ici la faculté ainsi nommée du fait de la triste incompétence de la parole humaine, cette faculté effrayante surgit des abîmes de l'esprit. Cette faculté effrayante, la plupart des neurologues nous le disent, est propre exclusivement à l'espèce humaine. Mais quelle en est l'origine? Où se situe-t-elle physiquement? Existe-t-il dans le cerveau humain un site ou un groupement de sites neurologiques qui déclenche une histoire ou une image en réponse à notre besoin de connaître une certaine expérience non vécue? Qu'est donc cette énergie, cette force, cette faculté apparemment thaumaturgique de façonner ces miroirs inventés de la réalité au moyen desquels les humains partagent leur expérience? Le fait est que nul ne le sait. Je finis avec une dernière section. Les mythes ne sont pas seulement des miroirs, mais des galeries des miroirs. Lorsque nous y pénétrons, ils deviennent des systèmes de pensée qui se ramifient en direction du monde extérieur et des terriers d'éclaircissement qui s'enracinent dans l'âme inconsciente. Nous les construisons afin de nous faire aller et venir du rêve à la veille, de la sensation à l'expérience, et si nous les abandonnons volontairement, nous nous retrouverons au plein sens du terme sans connaissance. Les lectures multiples de certains mythes constituent une pierre de touche qui prête au peuple d'Europe une persona intuitive et changeante et un point de départ ainsi qu'un langage commun. Le mythe est une parole, a suggéré Roland Barthes, un système de communication. Par ses transformations, traductions et migrations, un mythe offre à des sociétés différentes un rôle associatif traversant le temps et l'espace. Un mythe né des racines anciennes peut s'étendre dans le présent si quelque chose dans sa sève parle à l'individu ou à la société qui choisit d'entrer en dialogue avec lui. Le cas de l'identité européenne, pour revenir à notre thème, est particulier. L'Europe est un concept instable, une configuration géographique, démographique et politique dont les parties constituantes ne cessent de changer. L'Europe de la Rome impériale n'était pas celle des Dante. L'Europe d'Erasme et des Descartes n'était pas celle de Goethe. Selon Voltaire, quand le petit-fils de Louis XIV accéda au trône d'Espagne, le roi, conscient que la géographie est une construction imaginaire, se serait exclamé « Il n'y a plus de Pyrénées ». Dès nos jours, l'identité européenne balance entre deux interrogations. Faudrait-il considérer la Turquie comme un État européen, et devait-on autoriser la Grande-Bretagne à sortir de cette identité? Tout écrivain européen, a déclaré Julio Cortázar, est esclave de son baptême, pour paraphraser Rimbaud. Qu'il le veuille ou non, sa décision d'écrire porte le poids d'une tradition immense et même effrayante. Qu'il accepte ou qu'il se rebelle, cette tradition l'habite, elle est pour lui une familière ou un incube. Aujourd'hui, cette tradition est confrontée au mythe d'Europe dans un contexte culturel qui a reconnu, mais certes pas éliminé, un certain nombre de faits, tels que la dette à payer par les colonisateurs à la lumière du postcolonialisme, la connaissance de l'usage de viol comme arme de guerre, la vaste question des réfugiés et des migrants économiques. Spécifiquement, la signification de l'Europe en tant qu'identité est constamment mise en cause par des perceptions nouvelles. Et pourtant, d'une certaine manière, elle a été en majeure partie préservée. Dès 1871, le poète portugais Antero de Quental mettait en garde contre une soumission servile à la tradition motivée par le désir de faire partie de ce qu'il appelait l'Europe cultivée. Respectons la mémoire de nos ancêtres, certes, rappelons-nous pieusement leurs actions, mais ne les imitons pas. Ne soyons pas à la lumière du XIXe siècle des fantômes nés d'une vie empruntée au XVIe. À cet esprit mortel, opposons ouvertement l'esprit d'aujourd'hui. Une question s'impose dans le contexte du mythe ancien d'Europa et de son taureau amoureux. Quel est cet esprit d'aujourd'hui? Où en sommes-nous maintenant, au XXIe siècle, dans notre lecture du mythe et l'usage que nous en faisons en tant que métaphore? Umberto Eco soutenait que la langue de l'Europe est la traduction. Mais traduction de quoi en quoi ? Goethe, afin d'illustrer le désespoir de Faust devant la futilité du savoir académique, engage le savant dans une tentative de traduction en allemand du premier vers de l'Évangile de Jean. Le point crucial de la scène est l'instant où Faust s'efforce de saisir le sens du mot « wort », traduction par Luther du grec ancien « logos », un terme traditionnellement traduit en français par « verbe ». Et Faust dit « Il est écrit au commencement et était le verbe. Ici, je m'arrête déjà. Qui me soutiendra plus loin ? Il m'est impossible d'estimer assez ce mot, le verbe. Il faut que je le traduise autrement, si l'esprit daigne m'éclairer. Il est écrit « Au commencement était l'esprit ». Réfléchissons bien sur cette première ligne et que la plume ne se hâte trop. Est-ce bien l'esprit qui crée et conserve tout ? Il devrait y avoir « Au commencement était la force ». Cependant, tout en écrivant ceci, quelque chose me dit que je ne dois pas m'arrêter à ce sens. L'esprit m'éclaire enfin. L'inspiration descend sur moi et j'écris consolé. Au commencement était l'action. Ces trois significations sont comprises dans le mot verbe et dans toute opération de traduction. Sinn, l'esprit, anime Zeus et anime Europa. Dans un cas, en amenant Zeus à imaginer comment enlever la jeune fille, et dans l'autre, en aidant celle-ci à prendre conscience, trop tard, du stratagème du dieu. Kraft, la force, permet à Zeus de réaliser sa volonté et est accordée à Europe violée après son arrivée sur la terre ferme. Tat, l'action, est la récapitulation du mythe. L'exécution d'un enlèvement en guise de métaphore de migration, d'arrivée et de fondation. Une chose devenant une autre du fait de son déplacement. Enlèvement, métamorphose, métaphore, traduction, autant de termes qui dénotent le passage d'une condition d'existence à une autre, ce que Nietzsche définit dans le contexte de l'Europe comme un état de devenir. En ce sens, le mythe d'Europa est en lui-même la métaphore parfaite de l'histoire qu'il prétend raconter, un mythe concernant la traduction. La traduction est affirmation. Traduire, c'est transporter de l'ensemble de signes sémantiques à un autre l'identité d'un texte afin de confirmer et de rétablir cette identité originale sous une forme différente et néanmoins identique. Acte modeste de transsubstantation qui convertit la substance du texte en quelque chose de miraculeux et concret qui affirme la validité du langage lui-même. Il me paraît, dit Don Quichotte, que traduire d'une langue dans une autre, quand ce n'est pas du grec ou du latin, la reine des langues, c'est comme regarder l'envers d'une tapisserie flamande. On distingue toujours les figures, mais brouillées par un tas de fils, si bien qu'elles ont perdu la netteté et l'éclat qu'elles avaient sur l'endroit. Une traduction est donc une affirmation chargée de l'évidence de la transformation subie, consciente d'avoir perdu la tournure de l'original, mais sachant qu'en dépit des fils apparents, elle reconnaît encore son lieu d'origine. Europa est jusqu'à tout au bout celle qui définit le royaume phénicien abandonné selon le terme des Dantes, le lieu où Europa se fit tendre fardeau. La traduction est dialogue. Elle peut autoriser au traducteur une réaction critique à l'original. Au fil d'une route longue et sinueuse, j'ai tenté d'explorer la question difficile de l'identité de l'Europe. Parti du mythe grec, je me suis demandé comment un récit devient un mythe et comment un mythe récupéré peut devenir la métaphore d'une identité. Et enfin, en me demandant si la notion de traduction ne pourrait contribuer à expliquer au moins une partie du processus. Peu après son exil forcé en 1302, peut-être n'emportant avec lui que quelques ébauches du poème qu'il composait dans sa langue maternelle, Dante essaya de définir l'Europe, ce tiers du monde tripartite dont les États italiens et sa chère Florence en particulier constituaient une partie. Dans ses buts, Dante eut recours à un mot que, des siècles plus tard, James Joyce, lecteur fervent de Dante, choisirait pour sa béatricienne Molly. Yes. Dante écrit « Dans toute cette région qui s'étend de l'embouchure du Danube ou marais Méotide aux rives occidentales de l'Angleterre, Dante écrivit dans De Vulgare Eloquentia, qui est défini par les frontières des Italiens et des Français et par l'océan, une seule langue prévalait, même si elle fut par la suite fractionnée en multiples vernaculaires par les Slaves, les Hongrois, les Teutons, les Saxons, les Anglais et plusieurs autres nations. Une seule trace de leur origine commune demeure dans presque toutes, à savoir que dans presque toutes les nations énumérées ci-dessus, pour répondre à l'affirmative, on dit « yo ». Le mythe d'Europa commence par un enlèvement, mais chez Moschus et chez Dante, il se termine par une affirmation. La traduction par « Europa » du désir de viol de Zeus en son propre désir de fondation, traduction du négatif en positif, traduction de un non en un oui. Merci.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter la leçon inaugurale d'Alberto Mangel intitulée « Europa, le mythe comme métaphore ». De France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion. Parmi les nombreux ouvrages d'Alberto Mangel, je rappelle La Cité des mots, publié chez Actes Sud, collection Babel, en 2018. Réalisation, Émilie Vallat. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. Lundi, nous retrouverons le sociologue Pierre-Michel Minger pour sa grande enquête intitulée « Comment achever une œuvre ? Travail et processus de création suite ». Il nous propose cette année de passionnantes études de cas. Belle journée à l'écoute de France Culture.